Bonsoir. Pour parler de Kampala entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23, aucun accord final signé entre les deux parties près de 4 mois après le début des négociations. Entre-temps, après l'adoption de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies créant la brigade d'intervention, le gouvernement congolais demande au M23 de s'autodissoudre, ce qui n'est pas de l'avis de ce mouvement rebelle. Comment analyser cette situation et quelle pourrait être la voie de sortie? Nous recevons comme invité honorable François Mwamba, président de l'ADR, membre de la délégation du gouvernement congolais au pourparlers de Kampala. Honorable Mwamba, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Arsène Mwaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Professeur Mwaka, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Philippe Yoya, politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Professeur Biyoya, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Moïse Mutunga de Kindo Manyema, le gouvernement congolais n'a plus le droit d'être à Kampala pour les pourparlers. Le M23 doit cesser d'exister et le gouvernement doit réaffirmer sa présence dans les opérations. Wessi Kaba de Beni au Nord Kivu, que faut-il retenir finalement face à ce double langage? La dissolution du M23 ou son intégration au sein des FRDC? Guy Maté et Kelin Kouté sont à la réalisation, Mimi Kindo est à la mise en monde. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Pour parler de Kampala, entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23, aucun accord final signé entre les deux parties près de 4 mois après le début des négociations. Le gouvernement congolais dit avoir soumis un projet d'accord que le M23 doit signer, mais ce dernier déclare disposer aussi de sa proposition d'accord qui doit nécessiter l'harmonisation avec celle du gouvernement. Cependant, dans une conférence de presse conjointe animée lundi dernier par le ministre des Affaires étrangères et son collègue des médias, le gouvernement congolais appelle le M23 à s'autodissoudre, ce qui n'est pas de l'avis de ce mouvement rebelle. Innocent Olinga.
Nous pensons que Kampala est l'unique voie pour résoudre les conflits armés dans l'est de la RDC et arriver à la paix durable, et nous sommes toujours attachés à ces pourparlers. On ne doit pas privilégier des solutions alternatives qui amènent des dégâts collatéraux innombrables, a déclaré ce matin à Radio Kapi René Abandi, secrétaire chargé des relations extérieures du M23, et celui-là même qui préside la délégation de ces mouvements rebelles à Kampala. Reconnaissant que le gouvernement congolais a fait une proposition d'accord qui leur a été soumis, René Abandi précise qu'il devaient aussi apporter leurs propositions d'accord de façon que des deux textes ressortent un consensus. Mais ils déplorent ce qu'ils qualifient des manœuvres de diversion du gouvernement. Mais à entendre les ministres congolais des Affaires étrangères, le M23 n'a qu'à signer l'accord proposé par les gouvernements. Remo Tshibanda.
Le M23 peut s'agiter autant qu'il veut. Son espérance de vie est très courte. Il n'est plus question de recycler les spécialistes de la rébellion dans les rangs des forces armées. Il n'est pas question de leur donner un avenir politique quelconque. Le seul avenir pour le M23, c'est de cesser d'exister comme mouvement politico-militaire.
À M23 de conclure que les 4 mois passés à Kampala n'ont pas été réellement du temps pour les gouvernements pour parler, mais plutôt du temps pour préparer une solution militaire.
Merci Nonsan Olinga. Notez que dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi à Goma, la société civile du Nord Kivu déplore qu'à travers ses actes et même les déclarations de ses dirigeants à travers la presse, le M23 ne se montre pas disposé à faire la paix au Nord Kivu. La coordination de la société civile accuse ce mouvement armé de continuer de renforcer ses positions, notamment avec des troupes venues dernièrement de certains pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, nommément cités. Honorable François Mwamba, je rappelle que vous êtes président de l'ADR et membre de la délégation du gouvernement congolais au pourparlers de Kampala. Où en sommes-nous finalement avec ces pourparlers?
Alors c'est très simple. Le président de la République a voulu effectivement dépêcher à Kampala une délégation plurielle, dite délégation gouvernementale. Plurielle pourquoi? Parce que compte tenu de ce qui s'était passé en 2009, notamment, il était indispensable que cette fois-ci, il y ait des grands témoins, qu'il n'y ait pas que le gouvernement seul qui représente la République. Et donc, c'est à ce titre-là que, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne des membres de la société civile et d'autres organisations politiques, nous sommes retrouvés à Kampala. Où en sommes-nous? Pourquoi d'abord sommes-nous allés à Kampala? L'opinion doit se rappeler que face à l'agression extérieure dont nous avons été l'objet, dont notre pays avait été l'objet il y a un an, le président de la République, prenant la mesure de la situation, avait à cette occasion-là et en ce temps-là indiqué que nous allions nous en sortir. Mais comment? Front militaire, front politique, front diplomatique. Il l'a pas simplement dit, il l'a fait. Ainsi, c'est puisque nous avons ouvert ces discussions de Kampala, que nous avons pu obtenir que le M23 puisse quitter Goma, qui était alors occupé, l'opinion s'en souvient. Le premier résultat concret des discussions de Kampala, le fait que le gouvernement ait accepté de se mettre à une même table de discussion avec une force négative, n'oublions pas, ça a été donc le prix à payer pour que Goma soit libéré. Nous sommes restés, c'est vrai, 4 mois, mais ce sont 4 mois, et tout le monde peut le constater, durant lesquels le M23, qui en avait la capacité militaire, a été privé du volet diplomatique qui eût pu lui permettre de prendre d'autres territoires. Si nous nous situons à ce que la situation de notre pays était il y a 6-8 mois, il faut bien constater que c'est grâce à ces discussions de Kampala, que durant ces 4 derniers mois, des gens qui avaient la capacité de pouvoir aller à Bukavu, de pouvoir monter sur Kisangani, n'ont pas pu le faire. Il faut également se référer au cadre fixé par les chefs d'État de la sous-région, de la CIRGL notamment. Ceux qui, par une décision, notamment celle du 24 novembre 2012, demanderont au président de la République démocratique du Congo d'ouvrir ces discussions avec le M23. Pourquoi faire? Pour examiner, j'essaye de retrouver les termes qu'il y a dans ce document, qui est un document officiel, examiner le document du 23 mars 2009 et s'il échait. S'il y avait là-dedans des revendications du M23, des revendications légitimes, les traiter, c'est-à-dire les résoudre. On a très bien vu par la suite que le M23, au-delà de ce document, qui était sa revendication première, ont ajouté d'autres revendications, et ces autres revendications, on nous a demandé de les écouter. Où est-ce qu'on en est? Ça va prendre 30 secondes. Où est-ce qu'on en est exactement? On a fixé un ordre du jour qui comportait 3 points. Le premier point, donc, cette évaluation dont je parlais. Ensuite, les questions dites sécuritaires, les questions politiques. Sur le premier point, nous avons eu comme méthodologie d'échanger des documents. On a échangé les documents et on a signé. On a évacué la première question, celui de l'évaluation. Sur la seconde question et sur la troisième question, l'échange des documents entre l'M23 et nous autres a été fait. La balle est dans le camp de la médiation pour nous proposer des synthèses sur ces deux derniers points. Et puisqu'il fallait quand même, conformément à la décision du président de la République, de faire en sorte d'arrêter ces discussions au 15 mars, nous avions à cette occasion effectivement déposé également un projet de conclusion finale. Alors, balle est dans le camp du M23, la balle est dans le camp de la médiation, voilà. À eux d'examiner tous ces documents et de nous indiquer le moment venu s'il échait pour que nous puissions en finir, c'est-à-dire aller signer quelque chose.
Alors, y aura-t-il un accord final, oui ou non? Et en ce moment où le gouvernement demande au M23 de s'autodissoudre, qu'est-ce qui va se passer?
Ils ont 3 possibilités. Et ce que nous disons là, ce n'est pas une initiative unilatérale du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je me souviens très précisément que en janvier, lorsque nous reprenons les travaux après Noël, le médiateur, le Monsieur Kiyonga, a dit la même chose, mais de la manière la plus claire. Il a dit quoi? Il va y avoir une force, une brigade, avec pour mission de nettoyer tout ce qui est force négative, tout ce qui est groupes armés.
Dans la M23.
De deux choses l'une, non, attendez, n'allez pas trop vite. De deux choses l'une en ce qui concerne la M23. Si d'ici là, avait-il dit en janvier, Il y avait un accord politique. L'homme 23 ne serait pas concerné, puisqu'il n'existerait plus. Mais si, par malheur ou d'aventure, un tel accord n'intervenait pas avant la mise en place effective de cette brigade, alors, comme toute autre force négative, il serait concerné par ce nettoyage. On en est là, c'est à eux de choisir leur destin.
Alors, vous disiez qu'ils ont trois possibilités. La première ?
La première, c'est donc de signer.
Signer. La deuxième ?
La deuxième, c'est de chercher comme ils font, et je pense que c'est sans issue, espérer pouvoir faire traîner les choses en longueur.
La troisième ?
La troisième, c'est de s'entêter et de refuser le bras tendu par la République du Congo, le bras tendu par le président de la République. Dans les deux derniers cas, je crains que pour eux, la destination soit l'explication avec la brigade qui arrive.
Professeur Arsène Mouaka, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Vous venez de suivre l'honorable François Mwamba. Professeur, quelle analyse vous faites par rapport à toute cette situation?
Oui, je voudrais d'abord dire que 4 mois viennent de s'écouler où pratiquement les caisses de l'État ont été saignées par un groupe de gens qui ont cru à l'impossible, puisque l'opposition politique dans notre pays avait refusé de participer à ces négociations qui avaient pour objet l'évaluation d'un accord qui avait été signé pratiquement secrètement entre le gouvernement et cette excroissance du RCD, finalement actuellement excroissance du CNDP. Et donc la duperie dans laquelle chacun a jeté l'autre se dévoile aujourd'hui à telle enseigne que tout ce qu'on peut féliciter, c'est la résolution 2098 qui vient apporter un nouvel élément sur le champ des violences de l'Est du Congo. Et donc, moi, personnellement, je salue cette résolution, comme tout le monde, mais je voudrais dire au gouvernement, halte au triomphalisme, puisque jusque-là, nous n'avons qu'une résolution, et il va falloir encore que cette résolution puisse se concrétiser. Au lieu de crier au triomphalisme, je semble croire que la chose que le gouvernement doit devoir faire, c'est finalement d'avoir une politique nationale qui doit s'exécuter, puisque successivement nous nous jetons dans des schémas internationaux qui n'apporteront pas la paix à l'est du pays. Puisque moi, ce qui me surprend, c'est de voir qu'un gouvernement applaudit l'envoi d'à peu près 3000 hommes armés, alors que ce même gouvernement a plus de 100 000 hommes armés. Et donc, c'est quand même quelque chose qui fait rire. Vous avez plus de 3000, vous avez à peu près 3000 personnes qu'on va vous envoyer, vous applaudissez fortement et vous criez à la victoire, alors que vous-même vous avez 100 000 et vous êtes en mesure de protéger votre pays. Et donc, je semble croire qu'à cet instant, maintenant, quel nouvel élément va s'ajouter sur le champ des violences où le gouvernement va avoir une force internationale? Il est temps de se concentrer et d'avoir un schéma national pour terminer la centaine de milices qui écument l'est du Congo. Il ne s'agit pas seulement du M23. Il y a une centaine. Il y a les EDF, il y a les FDLR, il y a une multitude de maïmaï qui portent des différents noms, Chetani, Chinja, je ne sais pas quoi. C'est des noms bizarres, c'est une centaine. Et donc, ça demande que l'on puisse mettre un peu d'eau sur la tête, un peu d'eau froide sur la tête, et cette fois-là, prendre la bonne mesure et essayer de réfléchir comment on pourra capitaliser cet effort extérieur qui vient pratiquement se joindre à un effort national plutôt que de dire des choses. Et donc, à mon avis, je semble croire qu'à Kampala, il n'est pas juste question de dire le M23 n'a qu'à s'apprendre à lui-même, sinon on aurait fait la même chose, puisque je crois qu'un des auditeurs venait de dire tout à l'heure qu'au moment où nous croyons que tout est fini, ils se surarment, ils se réorganisent, ils veulent encore occuper du terrain.
Professeur.
Le temps qu'on puisse constituer cette force. Et donc je semble croire qu'il y a une réflexion à faire rapidement.
Mais professeur, vous avez suivi également l'honorable François Mwamba qui pense que les 4 mois passés à Kampala ont plutôt été fructueux. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Bon, je crois que l'unité de mesure, c'est la paix à l'est du Congo. si l'honorable François Mamba, que je respecte beaucoup, peut démontrer que à l'Est, il y a eu la paix, je crois que nous dirons qu'il y a eu des fruits qu'on a tirés de Kampala. Je suis parmi ceux qui ont catégoriquement refusé de piétiner à Kampala. Nous avons refusé, nous, en tant que députés du Nord Kivu, de participer à ces négociations, puisque nous pensions, comme eux maintenant, que c'était sans objet et que ça ne valait pas la peine de recycler plusieurs fois des gens qui ont endeuillé la République. Et donc, nous sommes contents qu'ils reviennent à la raison, mais nous les interpellons rapidement pour dire halte au triomphalisme. Il va falloir réfléchir rapidement sur comment capitaliser cette force, sinon les 17 000 hommes qui sont venus renforcer notre armée risquent, en fait, risquent de se retrouver dans la même situation que celle des 17 000 qui se retrouvent déjà sur le territoire national.
Et donc, professeur, ici et maintenant, le M23 devrait-il se dissoudre, s'autodissoudre?
Mais ça va de soi. Mais je semble croire que la dissolution du M23 ne va pas être proclamatoire. On ne va pas décréter que le M23 est fini comme ça par la gueule. Ils sont armés. Il va falloir négocier, les aider à se dissoudre. Le gouvernement a cette responsabilité puisqu'il les a aidés à survivre pendant longtemps depuis le RCD. On les a gardés longtemps dans les institutions. On leur a donné des grades. On les a protégés contre la justice internationale. Il est temps que le gouvernement s'assume et les aide à se dissoudre. Ils ne vont pas s'auto-dissoudre comme, je ne sais pas, une boule de neige qui se retrouve au soleil. Et donc, il est très clair qu'il va falloir qu'il y ait une réflexion pour donner la porte de sortie à ce M23 que le gouvernement a protégé.
Professeur Mwaka, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu Sud-Kivu.
Soyez tout le monde de Bukavu Sud-Kivu. Le gouvernement cherche à s'évincer de sa primordiale obligation, celle de la sécurité du pays, en s'appropriant la brigade onusienne à la place de son armée. Le gouvernement devrait dialoguer avec ces groupes armés, car ils ont certaines revendications, comme le social, la réforme de l'armée, la question des réfugiés.
Ces groupes armés, pour certains, ont des revendications légitimes d'après cet auditeur et le gouvernement devrait négocier avec. Professeur Mwaka, brièvement.
Bon, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a des revendications légitimes, parce qu'il est clairement démontré que pratiquement toutes leurs revendications ont été vidées et qu'il est maintenant question de leur donner une porte de sortie. Soit ils traversent pour rejoindre leurs collègues Runiga et les autres au Rwanda, soit ils redeviennent des civils, puisqu'on ne doit pas continuellement recycler des criminels. C'est là que le gouvernement va apprécier ce qui va donner la paix à l'Est. Et c'est la paix à l'Est, c'est la fin de la guerre à l'Est, qui est l'unité de mesure plutôt que le vocabulaire.
Merci professeur Mwaka. Professeur Philippe Iyoya, vous êtes politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Professeur, il y a cet auditeur Aimé Chirinda qui nous appelle de Bukavu Sud-Kivu, qui nous écrit de Bukavu, qui dit le M23 ne peut pas s'auto-dissoudre malgré l'arrivée de la force dissuasive des Nations Unies, car selon moi, c'est lui qui parle, ce mouvement est un protégé de Kinshasa et quelles que soient les déclarations, Kinshasa va chercher comment protéger le M23 avant l'arrivée de la dite force. Professeur.
Bon, je pense que c'est une opinion. C'est une opinion qui est discutable et que vous savez mettre certainement en perspective avec les propos ou les échanges de François avec Arsène tout à l'heure là. Mais moi, je pense que pour mieux répondre à toutes ces questions, nous devrions en fait comprendre que nous avons là un problème qui me semble difficile et complexe, mais que nous voulons gérer comme un problème vraiment facile et simple. Ce qui m'étonne, qui m'impressionne dans tout ce que j'entends, c'est que on est très très loin des thèses qu'on a défendues à la naissance du M23 et lorsque l'M23 commence à faire des guerres. L'M23, c'est une création du Rwanda, c'est une création de l'Ouganda. C'est que si, en fait, aujourd'hui, nous avions un problème, même si nous sommes allés à Kampala, ce n'est pas avant tout pour rencontrer l'M23. C'était pour que nous fassions la paix avec le Rwanda et avec le Luganda. Et c'est la question de savoir si l'M23 disparaît, il devait disparaître. Il me semble qu'il n'est pas une question congolaise. Il devrait être une question, en fait, régionale ou question rwandaise ou ougandaise. Dans la mesure où nous avions dit que nous n'avions pas de crise interne et que l'M23 n'avait pas de problème à l'interne à poser. Donc, tu vois, c'est déjà là une difficulté et il ne faut pas qu'on l'occulte des deux. J'ai pu comprendre que François Mamba, il sait ce qu'il dit lorsqu'il dit qu'en fait, la décision tente à l'issue de pourparlers de Kampala. C'est la médiation sur l'Ouganda. C'est que la solution n'est ni dans le Congolais, ni dans les ministres qui viennent faire des démonstrations théâtrales à la télévision. La décision est entre la main des Ougandais qui diront ce qu'est en fait l'M23 devrait devenir ou non. Alors, ça c'est la deuxième chose. Alors, troisième chose, et là je serais peut-être d'accord avec Arsène, est-ce qu'il existe une politique générale de sécurité de la RDC, politique nationale, qui en fait revisite et ce qu'avait été la politique traditionnelle, si elle a eu lieu du temps de Mobutu, si elle a eu lieu du temps de Kabila père, si elle a eu lieu du temps de 1 plus 4 et consorts. Est-ce que nous avons en fait un concept stratégique? Est-ce que nous savons à quoi nous en tenons et quels sont les problèmes que nous devons gérer, comment les gérer? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où on a signé l'accord cadre de d'Addis Abeba, les questions du M23 devraient être placées dans les obligations que l'on a faites au Rwanda et à l'Ouganda de ne plus s'ingérer dans les affaires intérieures. Or, nous donnons l'impression que puisque c'est le Rwanda et l'Ouganda qui doivent ne plus s'ingérer, même quand ils sont déjà chez nous, quand ils ont déjà été chez nous, que nous n'avons pas d'intelligence à développer pour aider à comment, en fait, faire assumer cette obligation. Parce que la question, les M23, reste liée pour moi à l'ingérence de ce pays dans nos affaires. Comment va-t-on exécuter cet accord du côté rwandais, du côté ougandais, c'est s'abstenir des ingérences sans en fait résoudre le problème des formes d'ingérence, des instruments d'ingérence que ces pays ont créés. Je crois que c'est aussi simple et facile, il ne faut pas faire des grandes académies militaires pour comprendre ça. Et de toi, je crois que de quatre, on a dit que le président présentait en fait une triple stratégie, mais cette triple stratégie doit être articulée. Ce ne sont pas des stratégies séparées. Il ne faut pas qu'il y ait une structure, une démarche politique qui aboutisse, une démarche diplomatique qui aboutisse, une démarche militaire pour que non. C'est une articulation. C'est-à-dire, la politique, les diplomatiques et les militaires vont ensemble, ils traitent le même problème. Si il nous faut, en fait, construire la stabilité régionale, c'est que nous devons, en fait, chercher des solutions désormais à ce problème d'ingérence de ces pays ensemble. Alors, arrêtons le triomphalisme, arrêtons de donner l'impression que, en fait, nous ne sommes pas, en fait, au fait de la question. Ce n'est pas à force de trop parler, de multiplier des conférences de presse, qu'effectivement, l'opinion dira que cette fois que nous avons changé le cours de l'histoire, nous n'avons encore rien obtenu. Le cours de l'histoire n'a pas été changé. Je suis en train de craindre qu'à entendre, en fait, cette prise de position, que déjà la brigade, là, l'accord cadre de 24 ne soit en danger.
Professeur.
Pourquoi? Parce qu'il faut une politique d'exécution de cet accord. Professeur. Même lorsque la brigade vient.
Professeur.
Je ne pense pas qu'il soit de bonne politique de penser d'abord que les Nations Unies vont venir exécuter. Parce que à partir du moment où le Rwanda, l'Ouganda et la RDC ont signé, et puisque les milices là, les faits qu'on va combattre, on a dit qu'ils étaient en fait attribuables à des gouvernements. Mais il suffit que ce gouvernement coopère pour que la force là n'ait même pas en fait à faire une seule détonation. Mais
professeur,
pourquoi est-ce que nous donnons l'impression que nous ne savons pas ce que tout le monde sait et que nous n'avons pas encore compris que ce n'est pas la bonne volonté qu'il manque à l'ONU, ce n'est pas la bonne volonté qu'il manque à l'Union africaine, mais que toutes ces bonnes volontés, ça va faire 15 ans, n'ont jamais créé la paix, et ça a créé toujours des processus d'enlisement.
Alors,
c'est pas au Congolais qu'on doit prendre ça encore.
Professeur, au début de votre propos, vous énonciez que c'est un problème complexe, mais qui semble traité avec beaucoup de facilité. Professeur, avez-vous une impression de tâtonnement?
C'est pas du tâtonnement, c'est qu'il n'y a personne. Regardez, moi je pense qu'on n'est même pas, nous là, la plupart de ceux qui parlent de cette question, même ceux qui sont allés à Kampala, même des ministres, j'ai l'impression que nous faisons semblant de connaître quelque chose. Reconnaissons que nous ne savons pas à quel niveau cela se décide et pourquoi ça s'est décidé.
Merci.
Parce que je pense qu'on n'est pas allé à Kampala pour nécessairement obtenir un accord. J'ai encore lu un journal de Jeune Afrique, je crois, qui avait commenté l'entrée à Goma. Si les M23 ont été arrêtés et se sont retirés, c'est parce que ils sont allés au-delà de la mission que leur commanditaire leur avait donnée. Leur mission, c'était pas de renverser le pouvoir à Kinshasa. Et à partir du moment où ils ont cherché à renverser le pouvoir, on les a arrêtés.
Merci.
Et ils ont été repoussés. Alors, c'est que on n'est pas allé là-bas. On est allé là-bas pour que les pressions pour lesquelles on les avait créées, qui devaient demander peut-être des réformes à l'intérêt du gouvernement qui s'opère.
Merci.
C'est que nous sommes restés dans les ingérences. Or, nous devons sortir d'abord de l'ingérence pour que nous nous autodéterminions et que nous voyons, comme Hassan a dit, nous faisions des réflexions. Merci. Et que nous allions au contact du Rwandais et des Ougandais, sous la médiation peut-être des autres, pour dire voici, il y a eu ça, comment nous le faisons pour que, en fait, nous voyons ce que nous devons faire.
Merci, professeur. Honorable François Mamba, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Maître Francis Do Joseph Ondimba Lokombe depuis Kinshasa. Comment les gouvernements congolais qui tremblaient hier devant le M23 à Kampala, aujourd'hui ils leur obligent une dissolution avant un accord final? Construire sans terminer, c'est détruire. Vouloir la paix et la guerre est irresponsable et c'est le peuple qui sera victime du retour de M23 et non les politiques. Le gouvernement doit être réaliste en mettant un terme au pourparlers car rien ne garantit la réalisation et l'effectivité de la résolution 2098 des Nations Unies.
Réaction honorable François Mamba.
Oui, très très rapidement, de nos compatriotes qui sont intervenus les uns les autres, je salue les deux professeurs. Il y a des choses qui me semblent exactes, puisque je les connais également, et des choses qui ne le sont moins.
Telles que
L'unité de paix dont a parlé l'honorable tout à l'heure, comme étant l'unité de mesure par rapport à qu'est-ce que nous faisons à Kampala, fallait-il y aller, est-ce que ça coûtait cher et tout ça, etc. La réponse est très précise. C'est Kampala qui permet au M23 de quitter Goma. On peut chercher à savoir combien cela allait coûter à la République si pendant 2 mois, notamment les 4 mois qui viennent de passer, le M23 était resté à Goma. C'est Kampala qui contraint le M23 de ne pas profiter de la puissance militaire, de l'avantage militaire, l'avantage tactique qu'ils avaient à l'époque, puisqu'ils ne pouvaient pas en même temps discuter à Kampala et conquérir de nouveaux territoires. Il y a un lien entre Kampala et les résultats diplomatiques probants que nous avons obtenus. Tout le monde peut se rendre compte très rapidement que si chaque matin, depuis 4 mois, RFI notamment, annonçait, déclinait le nombre de territoires perdus par la République démocratique du Congo, personne ne serait venu à Addis Abeba pour signer quoi que ce soit avec nous en termes de mise en place d'une brigade. On nous aurait demandé de négocier notre départ. Donc, c'est Kampala qui permet cela, cette posture de la République qui reste entière, qui reste crédible. Et que donc, s'agissant donc de cette unité de mesure, j'indique que c'est vrai, ils sont à Rutshuru, c'est vrai, ils sont dans les environs de Rutshuru, mais le reste de la République n'a pas eu à souffrir des affres de cette guerre du fait que le gouvernement avait accepté de discuter avec cette force négative à Kampala.
Alors,
j'indique que si vous le permettez, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont intervenues, il faut bien que je dise quelque chose par rapport notamment à l'intervention du professeur Bouyoya. J'ai dit que l'articulation entre politique, diplomatie et le militaire, mais nous vivons ça au quotidien. Je venais de l'indiquer tout à l'heure. Le problème militaire que nous avons eu a eu pour relais une discussion politico-diplomatique, notamment l'ouverture des discussions à Kampala. Kampala a créé les conditions favorables à une signature à Addis Abeba et aujourd'hui au niveau de New York. Nous aurons fermé la boucle lorsque nous aurons, du fait de ces évolutions, notamment sur le plan diplomatique à Addis Abeba et à New York, créé les conditions, et je pense que nous y sommes maintenant, pour que le M23 comprenne l'urgence qu'il y a de pouvoir maintenant accepter le retour dans les girons de la République, dès lors qu'il n'y a aucune revendication légitime qui ait pu être mis sur la table lors de ces discussions politiques. Et donc l'offre qui est là est une offre cohérente. Voici venu le moment maintenant pour accepter d'essayer de dissoudre. Il faut.
Mais vous avez suivi le professeur Bioya qui dit que la disparition du M23 n'est pas une question congolaise, mais serait même régionale.
La région a déjà fait sa part. Je rappelle le communiqué du 24 novembre 2012, où il est dit très clairement que, un, il fallait qu'on ouvre ces discussions politiques avec le M23, je parle du gouvernement de la République démocratique du Congo, Il est dit très clairement dans ses communiqués, que le professeur peut consulter à tout moment, que pour autant, le M23 n'a pas vocation ni à aller plus loin, ni à déstabiliser la République, ni à perdurer au sens de pérennité. Donc, ils ont déjà dit ce qu'il fallait, et ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, c'est de nous conformer à ces communiqués. Nous avons ouvert les discussions, nous avons vidé l'agenda de ces discussions, les temps ainsi mis nous a permis des avancées diplomatiques par ailleurs, et aujourd'hui, chacun doit tirer les conséquences de tout cela. En ce qui nous concerne, nous disons, la balle est dans leur camp, à eux de tirer toutes les conséquences de cette nouvelle situation pour eux, à savoir accepter de signer ce qui leur est proposé ou alors tomber dans en tant que cible par rapport à la brigade qui arrive.
Professeur Arsène Mouaka, vous avez suivi la réaction de l'honorable François Mwamba à vos propos de tout à l'heure. Je souligne aussi que le professeur Biyoya a terminé son exposé en disant que nous ne savons pas tous réellement à quel niveau les choses se décident, professeur.
Bon, je ne reprendrai pas textuellement ces propos, tout en les partageant partiellement. Je crois que il y a une forte dimension régionale de la crise que nous connaissons, mais moi je voudrais fixer le débat en disant que les conséquences de tout ce qui se passe, ça se retrouve au Congo. Et donc, si d'un côté, quelqu'un peut dire que nous sommes en train d'avancer, eh bien, on doit être sûr que c'est pas seulement sur papier que nous avançons, mais que sur le terrain, où les gens sont violés au quotidien, où les gens sont tués, où les gens sont traumatisés, pillés à longueur de journée et pendant des années, eh bien, on souhaiterait que ça avance là-bas. Bon, maintenant, s'il faut que la solution soit trouvée à Kampala, s'il faut que ce soit retrouvé au Rwanda, je ne refuserai pas. Un État doit fonctionner avec la diplomatie, avec la politique, comme le chef de l'État l'a dit, en faisant aussi la guerre. Mais je voudrais que le tout marche. Je ne souhaiterais pas que l'on s'arrête à dire que Kampala a protégé ceci, Kampala a protégé cela, alors que nous ne manquons pas 3000 hommes bien formés pour faire le boulot. Quand les rebelles se sont rentrés dedans, ils ont réussi à se faire traverser la frontière. Qu'est-ce qui empêcherait qu'on évite du travail inutile aux gens, à la communauté internationale, à faire traverser cette force? Je semble croire que de ce côté-là, nous ne fournissons pas beaucoup d'efforts. Nous semblons de plus en plus nous jeter entre les mains de la communauté internationale qui ne pacifiera pas le Congo. Elle ne nous remplacera pas. Elle vient nous aider. Et donc, je semble croire que nous devons nous mettre en position d'être aidés plutôt que de croire que nous sommes plus malins, que nous manipulons toute la communauté internationale et que ça doit continuer comme ça. Et donc, c'est à ce terme que je voudrais bien dire à l'honorable Mwamba, sans pour autant créer une polémique avec lui, juste dire que nous avons besoin de paix. Et ça, lui et moi, nous convenons. Nous voulons la paix au Kivu, nous voulons la paix à l'est du Congo, nous reconnaissons que nous avons des faiblesses. Eh bien, loin de crier au triomphalisme, nous interpellons le gouvernement en lui disant qu'il va falloir rapidement se mettre au travail et essayer de trouver des pistes. Et on ne doit pas privatiser la question de la sécurité de notre pays en faisant juste une question de la majorité. Il semble croire qu'il n'est pas inutile qu'on puisse aller vers des états généraux sur la question de la sécurité à l'Est, rassembler toutes les idées et aider la République enfin à trouver la paix, à démarrer. Nous ne continuerons pas comme ça.
Alors, professeur, vous parlez des pistes et des solutions que devrait trouver le gouvernement. Nous sommes déjà dans la deuxième partie en ce qui concerne la voie de sortie. Et il y a plusieurs auditeurs qui ont leurs propositions. C'est le cas d'Emile Kingombe qui nous écrit de Lubumbashi au Katanga. La voie de sortie, c'est 1. Le dialogue national inclusif, sincère et transparent. 2. Réorganiser l'armée et les services de sécurité, suivi des salaires décents. Et 3. La brigade d'intervention des Nations Unies comme appui et non comme solution. Christian de Goma au Nord Kivu lui dit, quelle que soit la création de la brigade d'intervention, la solution aux guerres de l'Est, il nous faut un leadership pour frapper tous les groupes armés, instaurer une justice équitable et donner à la population la réjouissance de la richesse de ce pays, richesse que nous apprenons seulement dans l'histoire, car cette brigade ne sera pas éternelle en RDC, professeur.
Je partage totalement les avis d'Emile Kingombe et de Christian. il est très clair que à cette étape, le pouvoir a besoin d'écouter les gens. Parce que le plus souvent, quand l'opposition demande au pouvoir de l'écouter, le pouvoir croit qu'on lui demande le pouvoir. Nous ne demandons pas le pouvoir, nous disons, nous voulons la paix dans notre pays. Est-ce qu'on peut prêter oreille à ce que toute la République dit? Et je semble croire qu'un dialogue national sur ce plan-là vaut tous au pesant d'or. Il faut repenser la question de la défense nationale, au-delà de la question de l'armée. Au lieu de recruter vaille que vaille comme on le fait maintenant, il va falloir définir les axes principaux de notre politique de défense. Il ne s'agit pas seulement des questions de recrutement, mais il est question des objectifs même de notre politique et essayer de voir comment redessiner la carte militaire de notre pays. Alors, je partage l'avis de Kingombe qui dit « La brigade ne viendra que comme appui à ce que nous, nous organisons. » Et c'est pour ça que je plaide. Je plaide que rapidement le gouvernement puisse mettre du sérieux plutôt que d'être toujours celui qui rend incapable la possibilité d'être aidé. Merci. Le gouvernement doit se faire aider à se positionner convenablement en essayant de trouver parmi les hommes que nous avons, plus de 100 000 que nous avons, trouver des hommes qui sont capables. Et nous ne manquons pas ces hommes-là. Ils sont là, mais il est juste question d'organiser leur logistique, souvent détournée. Il est juste question d'organiser les ordres, souvent contradictoires. Il est clair que nous avons besoin d'une politique qui doit rapidement être définie. Je ne semble pas croire qu'à cette étape, le gouvernement soit en mesure de nous dire concrètement comment il va fonctionner avec cette brigade, qui est une chance pour la République si elle va fonctionner convenablement.
Merci, professeur Mwaka. Professeur Biyoya, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Charles Moussagoma, depuis la ville de Bukavu, demander au M23 de s'auto-dissoudre et d'utiliser la force pour combattre les rébellions à l'est de la RDC n'est pas une panacée. En fait, il est vrai que si le M23, on les considérait comme une agression extérieure à notre pays, on ne peut pas oublier qu'il y a des crises internes au sein de notre pays et qui sont dues peut-être à certaines personnes qui sont aigries de la répartition des ressources du pays. Alors, la première chose serait qu'on revoie comment les ressources sont réparties. Un autre aspect, c'est que la réforme du secteur de sécurité est aussi importante pour qu'on puisse juguler l'insécurité dans notre pays.
Professeur Biyoya, parmi les solutions, Charles propose notamment de régler les crises internes.
Non, je pense que il faut d'abord qu'on reste dans le problème. Si le problème que nous voulons résoudre, c'est que devient le M23, il faut éviter l'amalgame. Je sais que aujourd'hui, je salue François, mais je sais que nous avons avalé peut-être la couleuvre. Nous aurions dû peut-être refuser de négocier avec la M23, mais nous ne le pouvions pas parce que l'apport des forces militaires n'était pas à notre faveur, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Et que si on peut estimer que le progrès diplomatique, les réussites, nous sont attribuables, mais mettons ça en addition ou en fraction, on verra alors en ce moment qu'il faut éviter une solution en fait à somme nulle, à somme négative. Il faut une solution à somme positive. Or, la seule façon de finir cette histoire dans une somme positive, c'est-à-dire qui respecte les équilibres ou les rapports de force politiques et diplomatiques des uns des autres, dans l'ensemble, pas pris individuellement, c'est que en attendant que aujourd'hui la RDC soit rétablie dans sa sécurité, dans son intégrité, puisque la communauté internationale a reconnu, qu'est-ce que l'on doit faire de ces gens dont on sait d'où ils ont été en fait fabriqués et pour quelles causes ils sont? Parce que quand on dit qu'ils sont en Rutshuru, qu'ils sont là-dedans, mais c'est ça en fait le vrai problème. Parce que le Rwanda ne les a pas créés pour qu'ils prennent le pouvoir à Kinshasa. Le Rwanda a créé l'M23 pour qu'il y ait des territoires qui ne soient plus sous le contrôle de la RDC et qui fassent pour l'objet d'une administration quelconque. Alors, je pense que si nous voulons passer d'un système de guerre à un système de coopération régionale, je pense que le gouvernement ne doit pas, en fait, dormir sur ses lauriers. Le gouvernement ne doit pas se contenter de ce qui apparaît comme des victoires diplomatiques parce qu'il y a dans toutes ces victoires des pièges. Alors, nous devons nous mettre la pression pour trouver des voies et moyens de gérer ce que des problèmes qui sont des problèmes créés par le Rwanda dans leurs ambitions, dans leurs méchancetés là, qui deviennent des problèmes de nous tous. Parce que les hommes qu'on manipule, ce sont des Congolais, sous le prétexte que nous avons des problèmes à l'intérieur. Alors, je crois que je voudrais que, comme Mwaka l'a dit au début,
qu'on réfléchisse d'abord avant de venir crier des solutions. Est-ce qu'on a fait une réflexion? Est-ce qu'on sait exactement quels sont les pièges qui subsistent à l'accord et à la brigade? Parce que je pense avoir dit ceci, que la brigade là qui vient des Nations Unies, pour qu'elle opère efficacement, il faut que le Rwanda, l'Ouganda et la RDC y coopèrent. Parce que les forces négatives, que cette force va combattre, j'ai l'impression que tout ce que nous disons ici travaille à quoi? Travaille à donner de l'autonomie à ces forces négatives. Parce qu'on fait faire des déclarations, il y en a même qui racontent qu'ils peuvent s'armer, ils peuvent... Vous voulez leur donner une autonomie comme interlocuteur de qui? Et en rapport avec qui? Parce qu'à l'ONU, ces gens-là, ils ne sont pas membres. Donc, qui peut parler d'eux aux Nations Unies, c'est que ce sont des États qui peuvent le porter. Alors, au lieu de bloquer les mécanismes onusiens, au lieu de travailler à tourner en dérision les Nations Unies, parce que l'Ouganda et le Rwanda ne sont pas prêts de collaborer avec la MONUC, et surtout que cette brigade, ils l'ont déjà dénoncé bien longtemps avant. C'est qu'ils feront tout en leur pouvoir pour que cette mission échoue. Alors, il ne nous reste plus que nous, la RDC, qui espérons pouvoir tirer profit de cela. Mais alors, montre-nous sage, montre-nous réaliste, intelligent. Il faut éviter la tentation électoraliste. Il faut éviter, en fait, d'utiliser même le malheur pour pouvoir, en fait, récolter des dividendes politiciens.
Merci, professeur.
Ce qu'il faut faire aujourd'hui, la question est technique. Gérons ça techniquement. Il faudrait que, dans la façon de gérer l'accord, que nous, Congolais, nous ayons un agenda, un dossier qui concerne le 23. On dira aux autres là-bas, nous respectons la communauté internationale, nous respectons les accords, les statuts qu'on reconnaît à ces gens-là.
Merci,
mais
professeur.
Travaillons ensemble pour voir si on peut trouver des conditions, en fait, des changements, des modifications, d'allègement, pour que l'ordre national congolais ne soit pas perturbé.
Merci, professeur. Merci, professeur Souffré, que je vous arrête puisqu'il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Il faut déjà conclure. Honorable François Mwamba, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous?
Ce que nous devons retenir, c'est notamment ce qu'a dit l'honorable Mwaka. Aucun pays ne peut durablement survivre en sous-traitant sa sécurité. Ça n'existe pas. Nous avons donc des choses à faire. Peu importe ce qui a pu se passer jusqu'à présent, notre agenda en tant que République du Congo, c'est effectivement de doter notre État de l'élément essentiel de la puissance publique qu'on appelle l'armée. Cela dit, puisque nous parlons des solutions, il fallait ces moyens diplomatiques pour compenser les problèmes militaires que nous avons eus lorsque nous sommes agressés par le Rwanda il y a 1 an. Cela a été fait et de ce point de vue, Kampala a rempli sa mission. Aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est nous approprier de tous ces problèmes. En effet, le président de la République a annoncé une initiative en termes de concertation nationale. Allons-y là-dedans, n'ayons pas peur de nous rassembler, n'ayons pas peur d'y aller en nous disant c'est là que nous allons pouvoir faire de propositions concrètes en ce qui concerne cette question essentielle de l'armée. Merci. Nous poser la question de savoir depuis 50 ans pourquoi nous restons pauvres et comment nous pouvons nous en sortir et comment rassurer nos voisins pour que plus jamais il n'ait la tentation de venir se servir avec des kalachnikovs dans notre pays. Merci. C'est devant nous, faisons-le et surtout dans le rassemblement.
Professeur Mwaka, vous avez 30 secondes pour conclure.
Oui, je voudrais juste dire que pacifier le pays est un travail ardu. Et au nom de la démocratie, je demande à tous les Congolais de s'impliquer dans la phase actuelle qui est une phase décisive afin que nous puissions évacuer notre pays des bandes et rébellions aux armées.
Professeur, entre-temps, le dialogue interne continue à traîner.
Oui, c'est ce qui est regrettable puisqu'on l'énonce sous tous les vocabulaires et finalement, définitive, dans le concret, on ne fout rien et c'est cela le problème de notre gouvernement. Il parle plus qu'il ne fait.
Merci. Professeur Philippe Bioya, conclusion.
En conclusion, je pense que les solutions à la question se trouvent dans l'accord cadre. On a demandé à chacun d'exécuter un ensemble d'obligations. C'est en nous donnant des politiques d'exécution des obligations que nous allons en fait gérer tous ces problèmes. Gérons en fait l'accord cadre et vous verrez qu'il n'y aura plus de problème.
Merci professeur Philippe Bioya. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Je recevais également le professeur Arsène Mwaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN.
Enfin, je recevais l'honorable François Mwamba, président de l'ADR, membre de la délégation du gouvernement congolais au pourparlers de Kampala. Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Merci surtout à vous chers auditeurs et internautes de nous avoir suivis. Restez branchés sur Radio Kapi. Au revoir.